France Culture.
18h précisément sur France Culture, le journal Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Qui sont les tueurs dans l'ouest de la Syrie? Le gouvernement de transition ouvre une commission d'enquête sur les massacres des membres de la communauté alaoui. Plus de 1300 personnes tuées en l'espace de 3 jours. Mais les responsables sont en grande partie issus des forces du président. Une dissuasion nucléaire européenne alors que les 27 cherchent à renforcer leur défense. L'Allemagne se tourne vers la France et demande l'élargissement de son bouclier nucléaire. Alliance des gauches, saison 2, à quelques mois du congrès du PS, Nicolas Mayer-Rossignol rêve d'une gauche unie sans la France insoumise. Et puis la tombola de Notre-Dame, des pierres de la cathédrale sont à gagner pour financer la restauration du patrimoine religieux. Les appels émanent de toutes parts. Il faut un retour à la paix civile en Syrie. Plus de 1300 personnes, des civils alaouites pour l'essentiel, ont été massacrées en l'espace de 3 jours. Le bilan augmente d'heure en heure près de l'attaqué dans le bastion du clan Assad. Les tueries doivent cesser immédiatement, alerte l'ONU. Il faut que les autorités enquêtent sur les responsables, dit l'Allemagne, et qu'ils soient poursuivis, renchérissent les États-Unis. La présidence syrienne annonce l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante, laquelle devra faire la lumière sur ces tueries et sur ses responsables. Sauf que ceux qui mènent la répression, Christian Chesneau, sont issus des rangs de HTS du président al-Jarrah et de groupes satellites.
Avec ces tueries, les perspectives d'une Syrie réconciliée et apaisée s'éloignent à vitesse grand V, d'autant que le nouveau pouvoir islamiste à Damas semble incapable de rassurer les communautés religieuses et ethniques qui composent la mosaïque syrienne, malgré des signes d'ouverture après la chute du régime de Bachar el-Assad. Faute d'avoir su dialoguer, les autorités provisoires ont choisi la manière forte pour mater les dissidences régionales et les alaouites sont les premiers à en faire les frais. Fabrice Balanche est spécialiste de la Syrie à l'Université Lyon 2.
Les gens qui massacrent aujourd'hui les alaouites, ce sont d'abord les combattants de HTS, le nouveau pouvoir en place, qui sont des islamistes radicaux et qui n'ont que haine pour cette communauté. Autour d'eux, évidemment, il y a des groupes satellites. Alors, difficile de dire combien de combattants attaquent le Jabal Alaouite aujourd'hui. Plusieurs milliers, 10 000, 20 000. Donc il faut d'abord cerner cette région et puis ensuite l'investir, ce qui demande, entre 10 et 20 000 combattants.
Et du temps, ce qui signifie que le retour au calme n'est pas pour demain dans le pays alaouite, aujourd'hui traumatisé et en situation quasi insurrectionnelle. Au plan politique, Ahmed Eshera, l'homme fort du nouveau régime, joue gros en termes de crédibilité, pas seulement vis-à-vis des Syriens, mais aussi de la communauté internationale.
Pardon, j'ai perdu mon souffle. Israël coupe l'électricité à Gaza tant que tous les otages ne seront pas libérés. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, le ministre israélien de l'énergie n'hésite pas. Nous utiliserons tous les moyens à notre disposition, dit-il, pour rapatrier les otages et éradiquer le Hamas. Déjà ce matin, l'armée a bombardé le nord de l'enclave en visant, dit-elle, des terroristes qui tentaient de placer une bombe. Tout ceci alors que le Hamas est à Doha. Aujourd'hui, il parle de signaux positifs pour engager la seconde phase de l'accord de trêve. Israël doit s'y rendre demain, poussé par les anciens otages qui réclament un cessez-le-feu complet. Autre réunion en Arabie Saoudite demain pour négocier un cessez-le-feu en Ukraine. Mohamed Ben Salman recevra Volodymyr Zelensky ainsi que le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Devenir plus fort ensemble, alors que l'idée du réarmement de l'Europe fait son chemin en réponse au désengagement américain de l'OTAN, celle d'une force de dissuasion nucléaire commune émerge également du côté de l'Allemagne. Elle ne peut pas acquérir ses propres armes, mais le futur chancelier Friedrich Merz se tourne désormais vers la France et le Royaume-Uni. Explication Nathalie Versieux.
L'Allemagne s'est engagée après la Seconde Guerre mondiale à ne pas posséder l'arme nucléaire dans le cadre de plusieurs traités internationaux. Un consensus dans un pays pacifiste tant que l'ami américain assurait la défense du pays. Quantité d'ogives nucléaires américaines sont stationnées sur le sol allemand. L'aviation de chasse se tient prête à les charger à tout moment en cas d'agression. Mais tout a changé pour Berlin avec le second mandat de Donald Trump. Le partage des armes nucléaires nucléaire est un sujet dont nous devons parler avec la France et la Grande-Bretagne, a déclaré Friedrich Merz aujourd'hui. Nous devons devenir plus forts ensemble en matière de dissuasion. Pas question, dans l'esprit du futur chancelier, de remplacer purement et simplement le soutien militaire américain. Pour Merz, il s'agit plutôt d'un complément européen au parapluie américain, un sujet évoqué avec Emmanuel Macron à plusieurs reprises déjà.
Et cette protection, cette sécurité européenne, elle passe aussi, nous l'évoquons, par le réarmement des 27. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, y est revenue aujourd'hui avec ce plan de 800 milliards de dollars pour réarmer l'Europe. Des investissements non seulement nécessaires, dit-elle, mais aussi bons pour l'économie européenne.
Le potentiel d'innovation et économique de l'Europe est un outil pour sa sécurité. Et inversement, ces efforts de défense peuvent massivement stimuler un marché unique plus compétitif à moyen et à long terme. Les investissements conséquents à venir dans la prochaine génération d'équipements militaires et d'infrastructures de sécurité européens peuvent donner des ailes à des industries stratégiques pour l'accélération de la numérisation, la modernisation des réseaux de transport, les applications de l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les communications sécurisées. Tout cela est aussi important pour la sécurité de l'Europe que pour sa compétitivité.
La présidente de la Commission européenne qui a également rappelé que les États-Unis sont évidemment des alliés lors d'une conférence de presse sur les 100 premiers jours de son deuxième mandat. Face au péril, retrouvons-nous. C'est le titre de cette tribune publiée par plusieurs cadres du Parti Socialiste ce dimanche dans le journal L'Opinion. Elle est lancée par Nicolas Mayer-Rossignol, le seul opposant déclaré à Olivier Faure dans le prochain congrès du PS. Le maire de Rouen parle d'un changement de méthode et d'une possible alliance avec Raphaël Glucksmann. Objectif, s'unir rapidement pour travailler, Audrey Tison, sur la prochaine présidentielle.
Pour gagner, il faut bâtir un nouveau rassemblement de la gauche et des forces de progrès, prône le maire de Rouen et ses soutiens. Car la division serait synonyme de défaite en 2027, d'après eux. Les signataires souhaitent fonder une nouvelle plateforme commune avec Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann, et avec toutes celles et ceux, partis, think tanks, qui veulent œuvrer ensemble, y compris les personnalités de sensibilité écologiste et communiste. En revanche, la France insoumise ne semble pas la bienvenue. Les signataires excluent la partie de la gauche considérée comme empoisonnée par le populisme et le communautarisme. Cette nouvelle force politique lancera des états généraux pour travailler sur le fond et renouer avec les Français, en particulier les classes populaires. Elle a vocation à désigner son ou sa candidate commune pour la prochaine présidentielle.
Audrey Tison pour France Culture. Des morceaux de Notre-Dame à gagner au tirage au sort. C'est la Fondation du patrimoine qui organise un jeu concours avec comme récompense 50 pierres historiques issues de la cathédrale. Une condition pour participer, une seule, Benoît Grossin, faire un don d'au moins 40 euros pour restaurer le patrimoine religieux en péril.
Ces petits pavés de pierre calcaire, issus de débris après l'incendie du 15 avril 2019, sont authentifiés et sans aucune valeur marchande, prévient Alexandre Juglaris, le directeur général de la Fondation du patrimoine.
Ces pierres, elles ont été retaillées à partir de blocs qui ne pouvaient plus être réinstallés dans la cathédrale. Ces cubes mesurent 7 cm de côté, pèsent 800 grammes et on a appliqué dessus une plaque de laiton gravé. Elles ne sont pas remboursables, elles ne sont pas échangeables, elles ne sont pas vendables. Ce n'est pas un objet commercial, c'est bien un objet historique. Ce que l'on veut, c'est conserver une valeur symbolique forte partagée pour ces pierres.
L'objectif prioritaire, souligne-t-il, est de sensibiliser au patrimoine religieux en péril, églises, temples et synagogues dans les petits villages.
Il y a des petites Notre-Dame un peu partout en France qui souffrent. 500 édifices sont fermés, 5000 sont menacés à court terme. C'est de collecter des dons et donc tout l'objet de ces petites pierres de Notre-Dame vise à financer la restauration des petits édifices qui ont besoin d'aide un peu partout en France. On a lancé l'an dernier une grande collecte nationale en faveur du patrimoine religieux des petits villages. On a déjà collecté plus de 19 millions d'euros. Il y a encore au moins 15 millions d'euros qui sont nécessaires. Les besoins sont assez considérables.
Et pour la première semaine de cette campagne de dons associée à un tirage au sort pour l'attribution des pierres de Notre-Dame, la Fondation du patrimoine patrimoine annonce déjà plus de 1500 participants.
Inscription sur le site de la Fondation du patrimoine, c'est jusqu'au 4 avril prochain. Enfin, plus qu'une journée pour profiter du Centre Pompidou. La collection permanente du musée ferme demain soir. Pour les 5 années à venir, les travaux vont être longs. Dernière journée, donc ce lundi, et l'entrée est gratuite pour l'occasion. Le temps demain matin, c'est une carte de France coupée en deux avec de la pluie et de la grisaille au nord, du soleil voilé par endroits mais tout de même bien présent au sud. Les températures sont comprises entre 9 et 14 degrés, il fait 11 à Brest et Strasbourg, 12 à Lyon et Perpignan, 13 à Paris comme à Marseille et 14 degrés au plus beau sous le soleil de Nice.